milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Chantal Leroux.
Bonjour, bienvenue dans 7 milliards de voisins. La chute de Kaboul le 15 août dernier a sidéré le monde entier et soulevé un vent de panique en Afghanistan. Dans un sauve-qui-peut général, des milliers d'Afghans menacés par les talibans se sont précipités vers l'aéroport de la capitale pour tenter de fuir le pays. En 15 jours, l'armée française a pu évacuer de Kaboul quelques 2600 Afghans. Ces artistes, intellectuels, journalistes, traducteurs ou auxiliaires ayant travaillé pour la France doivent désormais reconstruire leur vie dans un pays qu'ils ne connaissent pas ou très peu. Comment ont-ils été pris en charge à leur arrivée à Paris? Quelles démarches doivent-ils entreprendre pour obtenir le statut de réfugiés? À quoi ressemble leur nouvelle vie? Quel futur leur est offert? Leur famille, bloquée en Afghanistan, pourra-t-elle les rejoindre? Et combien d'Afghans en danger de mort attendent toujours d'être évacués? On va en parler avec nos invités. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur WhatsApp au 33 7 64 45 51 41.
Les Américains quittent Kaboul après 20 ans sur le sol afghan. Près de l'aéroport, la tension est à son comble. Les États-Unis ont établi un gigantesque pont aérien pour exfiltrer les étrangers et les civils afghans craignant les représailles.
Il y avait des gens qui travaillaient pour notre ambassade, des interprètes, des gens qui travaillaient pour les services français. 600 personnes sont revenues depuis le mois de mai. Et puis depuis l'urgence de la mi-août, nous avons fait revenir en France un peu plus de 2000 personnes.
À l'aéroport de Kaboul, donc, j'ai eu en fait l'armée française. Donc depuis ce temps-là, je me sentais en fait en sécurité. Mais bien sûr que oui, donc en France, avec ma famille, je suis vraiment soulagé.
Il y avait une volonté de la France de les mettre à l'abri. Après, il y a une volonté de discrétion, effectivement, pour ces personnes, déjà pour leur propre sécurité, parce qu'ils ont laissé souvent des proches en Afghanistan. Ils sont partis avec rien. Il y a effectivement une surveillance policière. Ce sont des personnes qui sont libres, hein, donc ils ont été testés au Covid, ils sont négatifs, mais néanmoins, ils sont astreints à une quarantaine d'une dizaine de jours. Mais après, ils ne sont pas en détention et en rétention. Ils seront accompagnés socialement dans leur demande d'asile. Et comment est-ce qu'ils peuvent faire cette demande ?
Hélène Soupios-David, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice plaidoyer au sein de France Terre d'Asile. Reza Jafari, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président de l'association Enfants d'Afghanistan et d'ailleurs. En ligne avec nous de Nairobi, Nassim Majidi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes fondatrice et co-directrice du Centre de recherche sur les migrations Samuel Hall, basé à Paris, Nairobi et Kaboul. Je vous propose tout de suite d'entendre le témoignage d'un exilé afghan, Mohamadullah Hakim Ebrahimi, à 40 ans. Il est arrivé en France il y a un peu plus d'un mois, le 19 août. Il a fui l'arrivée au pouvoir des talibans. Ce doctorant réalise une thèse sur l'urbanisme de Kaboul en lien avec l'université de Montpellier. Une thèse qui l'a amené à voyager deux fois en France depuis 2019, mais il était loin de s'imaginer avoir à s'y installer. Il nous raconte au micro de Charlie Dupiot ce qu'il a vécu lors de ce mois passé.
Quand les talibans sont arrivés à Kaboul en août, j'y étais. Je travaillais pour mon entreprise de construction. J'ai une petite entreprise. J'ai même travaillé avec l'armée américaine. On avait de petits projets.
Et quel genre de projet vous aviez avec l'armée américaine ?
J'ai construit pour eux une petite bibliothèque pour une école de la province de Logar, au sud de Kaboul. J'ai aussi conçu un tribunal. En fait, c'était des projets financés par l'armée américaine, construits pour la population afghane.
Et quand est-ce que vous avez compris que les talibans allaient rentrer dans Kaboul ?
C'est une question très difficile. Personne ne pouvait s'imaginer que les talibans pénétreraient dans Kaboul comme ça, aussi vite. On pensait tous qu'ils resteraient en dehors de Kaboul pendant encore au moins 3 ou 4 mois, parce qu'il restait des forces américaines à Kaboul, au sein de l'aéroport, il y avait encore les ambassades. Donc quand soudainement, une nuit, les talibans se sont emparés de grandes provinces comme celles de Farah, de Kandahar, de Jalalabad et d'autres, personne ne s'y attendait. Le 15 août, ils sont entrés dans la capitale. J'ai eu de la chance car l'ambassade française m'a aidé. J'étais un étudiant très actif. Ils m'ont appelé pour me dire que je pouvais partir avec eux, car plus tard, ce serait difficile pour moi de quitter le pays. Le jour où les talibans sont arrivés à Kaboul, je suis sorti de chez moi et je les ai vus. Ils étaient nombreux, ils venaient d'arriver dans la ville, on était le 15 août. Ils étaient dans des pick-up, il y en avait plein. Nous, à Kaboul, on avait une image des talibans qui datait d'il y a 21 ans. On se demandait, est-ce qu'ils sont comme avant ? Peut-être que oui. D'après ce qu'on savait, ils n'aimaient pas les étudiants qui avaient étudié à l'étranger. Dans leur déclaration, ils affirmaient aussi que ceux qui, parmi nous, avaient aidé les troupes étrangères étaient encore pires que les troupes étrangères. Moi, d'une certaine façon, j'ai aidé les Américains puisque j'avais des projets avec eux. Ces projets étaient pour des civils afghans, mais les Américains étaient les donateurs. Donc j'avais peur. J'avais peur pour ma vie. Je pensais à partir le plus vite possible. Alors voilà, ce jour où les talibans sont arrivés à Kaboul, j'ai quitté ma maison et je suis allé à l'ambassade française. Là, j'étais sauvé, dans l'enceinte de l'ambassade, car les talibans ne pouvaient pas y pénétrer. Avec d'autres, nous sommes restés deux nuits et la troisième nuit, à 22 ou 23 heures, on a quitté l'ambassade, on est allé à l'aéroport militaire de Kaboul. Et le 17 août, on a pu quitter Kaboul à bord d'un avion de l'armée française. Il ne transportait bien sûr pas que moi. On était 150 Afghans. En 2014, quand les forces de l'OTAN ont fini de quitter le pays, de nombreux Afghans sont partis, surtout l'élite intellectuelle, les gens éduqués. Ils se sont dit qu'il n'y avait plus d'avenir pour eux dans ce pays. Et là, ça recommence. La majorité des Afghans éduqués qui ont étudié à l'étranger, qui ont des masters, des doctorats, des bonnes expériences professionnelles, ceux-là ont quitté le pays. Alors, s'il ne reste presque plus de gens éduqués, vous pouvez imaginer l'avenir du pays.
Quelle famille vous avez en Afghanistan aujourd'hui ?
J'ai mes parents, mon frère, et j'ai ma propre famille, ma femme et mes enfants. Ils sont encore à Kaboul. J'ai trois filles et deux garçons. Le plus âgé de mes enfants a 16 ans, le plus petit en a deux. Mon deuxième enfant est une fille. Elle a 15 ans et aujourd'hui elle ne peut plus aller à l'école parce que les filles n'ont plus le droit d'y aller à partir d'un certain âge. Elles peuvent seulement y aller les 6 premières années, jusqu'en primaire. Au moins tous les deux jours, j'essaie de parler avec ma famille au téléphone. Vous savez, ils sont vraiment très effrayés par la situation. L'ambassade n'a pas pu m'aider quand je suis parti, peut-être parce qu'il y avait déjà beaucoup de monde qui se précipitait. Mais je leur avais demandé plusieurs fois, « S'il vous plaît, j'aimerais emmener ma famille avec moi. » Ça a été très difficile de partir. Aujourd'hui, je n'ai pas d'autre solution. Il faut que je les fasse sortir du pays. J'essaie. J'ai même écrit des emails au ministère des Affaires étrangères ici en France. On va voir s'ils vont m'aider ou pas. J'espère, peut-être.
Hélène Soupios-David, votre réaction à ce témoignage de cet exilé afghan en France depuis le 19 août ?
C'est le témoignage qui correspond à toutes les histoires que nous on a pu entendre. France Terre d'Asile a accueilli les premiers vols qui sont arrivés, donc à hauteur de 500 personnes. Et on les a logés dans un hôtel pendant quelques temps. Et c'est exactement ça, c'est des personnes qui ont dû partir très vite, qui ont tout laissé derrière elles. Certains ont pu partir en famille quand même, mais aussi beaucoup ont laissé des gens derrière. Et la première chose qu'ils ont demandé en arrivant, c'était un chargeur de téléphone pour pouvoir être en contact avec les gens là-bas.
Reza Jafari.
Oui, c'est pareil. Là, c'est exactement les mêmes questions que les demandeurs, les Afghans qui arrivent en France nous pose et nous on avait fait une liste d'une trentaine de jeunes filles parce que on savait que en première ligne en danger c'était les défis, c'est des défis intellectuels, des écrivains, des journalistes, mais ces derniers temps on avait pas mal d'artistes, des chanteuses, mais aussi des jeunes filles qui étaient très connectées sur les réseaux sociaux. Et du coup, on a essayé de les faire sortir. Heureusement, on a réussi. Elles sont là aujourd'hui, on les prend en charge. Mais c'est toujours les mêmes questions qui reviennent. Ils pensent tous à leur famille.
Vous avez pu faire revenir combien de filles ?
Alors, à la base, on avait une liste d'une trentaine de personnes. Mais parfois, ils ont pu, comme ils étaient avec leur famille ou avec un frère... Et on a aussi laissé monter le frère ou la personne qui était avec. Du coup, ça a fait à peu près 45 personnes. Mais on a travaillé aussi avec l'association Singa, qui avait aussi une grosse liste, en tout presque 200 personnes.
Et ces listes, vous les avez transmises aux autorités françaises, à l'ambassade de France à Kaboul ?
Oui, à l'ambassade de France à Kaboul, mais les premiers jours, c'était décevant et on avait perdu l'espoir parce qu'il n'y avait pas de réponse, personne ne répondait. On avait, pour moi, j'avais travaillé pendant quelques années en Afghanistan et j'avais des contacts directs avec l'ambassade, j'avais même leur numéro de téléphone, ça ne fonctionnait pas. Et heureusement, à force, on a insisté et finalement, de jour en jour, on avait plus de contacts, on avait même parfois des contacts des forces spéciales qui étaient sur place et on faisait un travail.
Oui, qui sont allés superviser l'évacuation.
De 2 mètres. Oui, parce qu'en fait, il fallait des franco-afghans pour les évacuations, pour coordonner ceux qui sont à l'intérieur et à l'extérieur. Les forces spéciales à l'extérieur, quand ils sortaient, il y avait des milliers de personnes et ils ne savaient pas qui prendre. Du coup, pour ces listes, on était obligés de créer des groupes de WhatsApp et donner des consignes aux gens, les consignes que les forces de l'ordre nous donnait de l'intérieur. On leur demandait de mettre par exemple un bandeau rouge sur le bras et prendre un drapeau ou un tissu et aussi parfois écrire des mots de passe sur des papiers. Et là, quand les forces spéciales passaient, savaient que ces gens-là sont sur les listes et ils les prenaient en charge.
Ah oui, il a fallu mettre en place toute une série de stratagèmes pour que les gens puissent passer les barrages et arriver à rentrer dans l'aéroport.
Oui, oui, bien sûr. Les premiers jours, c'était très compliqué, vraiment très, très compliqué. Il y avait des centaines de personnes dans l'enceinte de l'ambassade de France. C'était difficile de les faire sortir et les amener jusqu'à l'aéroport. Et aussi des gens qui étaient devant l'aéroport. Mais il a fallu quelques jours pour mettre en place tout ce système et pas que nous. Du coup, il y avait une cellule de crise au ministère des Affaires étrangères. Mais nous aussi, on avait créé une cellule de crise. On était des dizaines à travailler avec des gens qui sont de l'extérieur et à l'intérieur.
Nassim Majidi, est-ce que ce témoignage de Mohamadoullah recoupe ceux de nombreux Afghans que vous connaissez ?
Oui, tout à fait. Entre le 16 et le 27 août, c'est exactement comme Reza le décrit, c'est-à-dire il y a eu une coordination qui s'est organisée entre Paris, Kaboul, donc l'ambassade qui a dû se relocaliser à l'aéroport, et la société civile, donc un certain nombre d'entre nous. Nous avons tous participé aux mêmes efforts d'évacuation et c'est cette coordination-là qui a réussi à sauver plus de 2600 personnes donc pendant ces quelques jours du mois d'août. Mais le problème, c'est que si la date des évacuations officielles donc, était arrêtée au 31 août, cette date-là est passée, mais les conditions d'une évacuation n'ont pas toutes été satisfaites, c'est-à-dire les listes dont Reza vous parlait, les listes qui ont été créées sont toujours là. Les personnes à évacuer, les personnes qui ont été approuvées sur des listes françaises, qui ont été reconnues comme des personnes en danger, restent à Kaboul et c'est à eux qu'il faut penser maintenant comment réussir à organiser leur évacuation. Il y a des moyens, il y a encore aujourd'hui des vols qui partent de l'aéroport de Mazar au nord ou par les voies terrestres. Donc il faut continuer à travailler sur ce point. Et malheureusement, la France n'a pas encore progressé sur ce point. Et la crainte aujourd'hui pour nous tous, c'est qu'on oublie ces Afghans et aussi des familles, comme on l'entendait dans votre reportage, des familles, des évacués qui n'ont pas pu être incluses, souvent parce que les personnes ont été appelées à venir à l'ambassade seules dans le chaos des évacuations du mois d'août. Mais le cas de ces femmes et de ces enfants doit être clarifié parce qu'aujourd'hui, les femmes ne peuvent pas sortir de chez elles. Les filles ne peuvent pas aller à l'école et on peut pas les laisser dans ces conditions-là, loin de leur père et de leur mari.
Nassim,
c'est un devoir moral tout autant que juridique.
Combien de personnes sont concernées par ce que vous dites ? Combien d'Afghans qui ont eu des liens plus ou moins étroits avec la France, donc en Afghanistan entre 2002 et 2014, combien d'Afghans n'ont pas pu être évacués ? Est-ce que ça se chiffre en dizaines, en centaines, en milliers ?
Plutôt en milliers, on n'a pas de liste. Nous, on a tous contribué à constituer des listes de journalistes, d'avocats, de juges, de membres de la société civile. La cellule de crise, elle, j'espère, a le décompte, mais elle n'est pas partagée. En tout cas, il faut clarifier la situation de ces personnes-là qui restent, mais vous faisiez aussi référence aussi aux demandeurs d'asile qui sont arrivés avant, qui ne sont pas issus de ces évacuations-là. Et il faut se rappeler que début août, je crois que la France était l'un des derniers pays européens à annoncer la suspension des expulsions directes vers l'Afghanistan. Mais il y a encore un manque de clarté sur la façon dont les autres demandeurs d'asile, demandes d'asile afghans vont être traités, sur la façon dont les Dublinois en français seront traités pour les demandes dont d'autres pays européens peuvent être responsables, parce qu'il y a toujours un risque potentiel finalement qu'il y ait des expulsions indirectes. Donc il faut bien garder un regard sur ce phénomène-là. Et sur le processus de regroupement familial en France, là j'ai un chiffre. Je crois que selon certaines informations, il y a 3500 demandes de regroupement familial qui émanent de réfugiés afghans qui sont actuellement en attente de réponse. Donc des efforts doivent être faits pour accélérer le processus pour ces familles-là, pour le regroupement familial en France. Donc des services administratifs s'en occupent, devraient bénéficier de plus de ressources néanmoins parce qu'il y a un retard important et un retard qui doit être traité comme une priorité.
Hélène Soupios-David, les Américains ont été très critiqués pour leur retrait précipité et chaotique d'Afghanistan. Est-ce que la France a été à la hauteur en organisant dans l'urgence ce pont aérien entre Kaboul et Paris ?
Pendant ce pont aérien, il y a eu une mobilisation vraiment exceptionnelle, que ce soit à Paris, à Kaboul. Ça peut-être aurait pu être un peu plus anticipé, parce qu'on a parlé de personnes qui ont été évacuées depuis le mois de mai, des auxiliaires, notamment qui travaillent avec l'armée, mais c'est allé assez lentement. Et alors qu'on voyait, personne ne savait que les talibans arriveraient si vite à Kaboul, mais on pouvait quand même anticiper un peu plus les choses. Pendant le pont aérien, la mobilisation était exceptionnelle, ce qui montre que quand on veut, on peut agir ensemble. Et moi, je vais surtout parler du côté français. On arrive à mobiliser des places d'accueil très vite et à prendre en charge autant de personnes. Mais maintenant, comme le disait Nassim Majdi, il y a une vraie question de l'après, c'est-à-dire que ça s'est arrêté brutalement. Les personnes qu'on accueillait, elles ont aussi, on a continué à faire des listes de familles, à les envoyer au Quai d'Orsay. Et le moment où le pont aérien s'est terminé, on a vu tout à coup les gens s'effondrer en se disant « il n'y a plus d'espoir, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour ma famille qui est restée là-bas ?» Et le fait que maintenant il y a une espèce de silence radio sur la suite inquiète beaucoup, beaucoup, beaucoup les personnes qui ont pu arriver et puis encore plus celles qui sont là-bas.
Nassim Majdi, vous dites que Paris n'a pas tenu ses promesses.
Oui, parce que c'est exactement ce que décrit Hélène, c'est-à-dire qu'il y a un silence radio qui est étouffant et qui nous fait peur, parce qu'on n'a aucune nouvelle de ces personnes qui soit détiennent des visas, des laissez-passer ou qui ont un droit de venir en France. Aucun suivi n'a été fait. Donc aujourd'hui, ces engagements-là qui ont été pris en août, des personnes qui avaient été acceptées pour venir en France, on ne peut pas laisser une date, un calendrier définir l'engagement de la France. Cet engagement-là, elle se construit sur des principes. Donc c'est pour ça qu'on dit que l'engagement n'a pas été tenu par rapport au regroupement familial également. Donc on attend des nouvelles, on n'a aucune nouvelle. Ces familles, ces hommes n'ont aucune nouvelle de la procédure à suivre pour pouvoir faire venir leur famille. Donc c'est ces engagements-là aujourd'hui qu'il faut tenir. Mais après, pour revenir sur des aspects plus positifs et je dirais essentiels, c'est que ces évacuations, vraiment l'accueil en France a été le succès de ces évacuations. Le processus qui a été mis en place à l'arrivée des Afghans montre ce qui est possible lorsque la réponse est organisée et les besoins d'urgence sont reconnus. Donc au-delà de la mobilisation de différentes administrations et institutions, il y a eu aussi entre 15 et 20 municipalités qui actuellement accueillent des ressortissants afghans, les réfugiés afghans qui ont été transférés de Kaboul. Donc plusieurs maires se sont mobilisés très vite, même avant la chute de Kaboul. Par exemple, Martine Aubry, le 8 août, s'est mobilisée en faveur des Afghans, parce qu'on savait, ce qui allait se passer. Anne Hidalgo s'est associée à l'appel mondial lancé aux maires pour qu'ils soutiennent les réfugiés afghans la semaine dernière. Donc on voit une vraie mobilisation qui se crée. Et il faut réussir à bâtir là-dessus pour donner une suite à ce mois d'août et donner une suite aussi à ces familles qui sont séparées aujourd'hui.
Est-ce que le problème des interprètes qui ont travaillé pour l'armée française en particulier a été réglé ?
Oui, il reste encore de nombreux auxiliaires de l'armée française qui restent en Afghanistan. Et il y a un collectif d'avocats qui se bat, et donc qui a justement signé cette tribune dans Mediapart hier, qui se bat pour que les juges puissent reconnaître qu'il y a urgence à statuer sur leurs demandes. Et aujourd'hui, il y a une vraie bataille sur les chiffres. Combien reste sur place ? Il n'y a pas vraiment d'accord. Mais on sait qu'entre 2002 et 2014, un grand nombre de personnes se sont vraiment engagées aux côtés de l'armée française. Ils attendent encore leur évacuation. Selon les sources des avocats avec qui j'ai parlé, on parle de 230 personnes qui restent encore. That's right.
Ariana Sayed sur RFI dans 7 milliards de voisins. Ariana Sayed fait partie des artistes menacés de mort en Afghanistan. La pop star a fui son pays natal et depuis se bat pour sensibiliser l'opinion internationale à la situation des Afghans et en particulier des femmes afghanes sous le régime taliban. Nous sommes toujours avec Hélène Soupios-David, directrice plaidoyer au sein de France Terre d'Asile, Nassim Majidi, co-directrice du Centre de recherche sur les migrations Samuel Hall et Reza Jafari, président de l'association Enfants d'Afghanistan. Et d'ailleurs, Hélène Soupios-David, juridiquement, les ressortissants afghans ont quel statut quand ils débarquent sur le sol français? Donc ça concerne les 2600 personnes arrivées entre le 19 août et le 28 août?
Oui, alors ces personnes qui sont arrivées donc spécifiquement dans cette opération, elles sont arrivées à l'aéroport à Paris. On leur a délivré un visa, parce que tout s'est fait vraiment très vite.
Un visa de combien de temps?
Un visa de 15 jours. Et donc, ce qui a voulu dire que pour nous, association organisant l'accueil, en 15 jours, il a fallu les accompagner pour entamer des démarches en fonction de leur situation. Donc, la très, très grande majorité est rentrée dans la procédure d'asile, a fait une demande d'asile. Et ils sont rentrés dans la procédure classique, comme tout demandeur d'asile. Donc, leur dossier va être étudié par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Et ils pourront ensuite obtenir le statut de réfugié. Ça fait à peu près aucun doute.
Mais pourquoi ne sont-ils pas prioritaires?
Ils sont prioritaires. Donc l'accès a été très rapide pour pouvoir déposer une demande d'asile, alors qu'à Paris, parfois, il faut attendre plusieurs mois avant de pouvoir avoir un rendez-vous. Et ensuite, donc l'Office français de protection des réfugiés, l'OFPRA, a indiqué qu'il traiterait ces demandes en priorité. Donc ces personnes-là, leurs conditions de départ étaient très compliquées, mais ils ont quand même eu un accueil et un suivi assez privilégié par rapport aux autres personnes qui arrivent en France par leurs propres moyens, dont des Afghans qui continuent à arriver. Et c'est pour ça que c'est très bien qu'on les accueille comme ça et dans ces conditions. Mais il ne faut pas non plus oublier les autres personnes en besoin de protection.
Mais ça veut dire que le droit d'asile, ils vont l'obtenir dans combien de temps ? C'est long le délai ou...
Habituellement, ça peut aller de 6 mois à 1 an en fonction des personnes. Ici, ce sera probablement en quelques mois le temps qu'ils doivent passer un entretien à l'OFPRA d'abord et ensuite que la procédure, que l'administration établisse des documents, etc. Mais ça va aller pour eux, ça va aller très vite.
Mais ils vont rester donc hébergés à l'hôtel pendant tout ce temps ?
Non. Alors, ils ont été hébergés à l'hôtel de manière temporaire et tous ceux qui rentrent dans la procédure d'asile sont ensuite répartis dans des centres d'accueil pour demandeurs d'asile avec d'autres demandeurs d'asile partout en France. Donc, nous, le dispositif que nous gérions maintenant, il est fermé puisque tout le monde a été orienté. Et ensuite, il y a eu des solutions aussi plus individuelles. On a parlé beaucoup, il y avait pas mal d'artistes, donc il y a beaucoup de compagnies, de théâtres, d'associations d'artistes qui ont pris en charge dans des résidences d'artistes ces personnes-là. Il y avait des étudiants qui ont pu bénéficier de solutions étudiantes. Voilà. Il y avait quelques cas particuliers, mais la majorité est en centre d'accueil pour demandeurs d'asile aujourd'hui.
Reza Chafari, de quelle manière votre association aide-t-elle ces exilés, ces nouveaux exilés afghans ?
Alors, pour notre liste, nous aussi, on a réussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'était des écrivaines. Parfois, il y avait même des policiers, des policières transsexuelles, des chanteuses. Et on a réussi, par des associations féministes, trouver de l'hébergement pour elles en région Île-de-France. Et... on a aussi quelques personnes qui les accompagnent juridiquement. Et il y a l'association Singa et beaucoup d'autres associations qui se mobilisent aussi pour subvenir à leurs besoins.
Hélène, combien de ressortissants afghans évacués par la France ont encore leur famille en Afghanistan et espèrent la faire venir ?
Ils ont tous au moins un membre de famille, je dirais. Il y en a qui ont pu arriver avec femme et enfant, mais la famille, c'est aussi les frères, les sœurs, c'est les parents. Donc, ils espèrent tous pouvoir faire venir des personnes. Après, ce n'est pas forcément la famille au sens nucléaire français, parents-enfants.
Mais les autorités françaises, elles se sont prononcées sur le regroupement familial, sur la réunification des familles ou pas ?
Non, justement, et comme le disait Nassim, il y avait le chiffre de 3500 par dossier en attente, c'était avant le 15 août. Et c'est-à-dire c'est des réfugiés afghans qui sont déjà en France qui avaient demandé à ce que leur famille puisse les rejoindre. Et ces dossiers-là étaient en souffrance parce que l'ambassade, le consulat de Kaboul était fermé, en tout cas pour ces dossiers-là. Donc d'abord, il fallait au Pakistan. Ensuite, avec le Covid et la situation sécuritaire, le consulat au Pakistan a fermé également pour les demandes. Et donc ensuite, il faut aller maintenant à New Delhi ou à Téhéran pour déposer une demande de visa. Donc aujourd'hui... ces personnes doivent, par leurs propres moyens, arriver à se rendre soit en Inde, soit en Iran, afin de déposer une demande qui doit ensuite être traitée par les services consulaires et aussi en France. Et ça prend en moyenne 2 à 3 ans en temps normal. Et pour l'instant, il n'y a pas de priorisation qui est faite pour les Afghans.
Nassim Majidi, donc vous avez publié cette tribune dans Mediapart avec des collègues chercheurs, des journalistes, des ONG, des avocats. Vous avez entamé, vous aussi, des démarches administratives pour aider les Afghans à partir. Et vous vous interrogez aussi sur l'inaction de la France dans les capitales des pays voisins. Où arrivent quand même les Afghans qui réussissent à passer la frontière ?
Exactement. Donc le chaos qu'on a vu à l'aéroport de Kaboul au mois d'août, aujourd'hui, les caméras n'y sont pas, mais c'est le même chaos que l'on voit à la frontière avec le Pakistan, par exemple. Donc les Afghans tentent de s'échapper, ils tentent de fuir, mais les frontières du pays sont aujourd'hui fermées. Les pays de la région ont fait un double choix ou un non-choix, c'est-à-dire ils ne reconnaissent pas le gouvernement des talibans, mais ils ne reconnaissent pas non plus qu'il y a une demande de protection légitime des Afghans qui souhaitent partir. Donc ils ont, que ce soit le Tadjikistan, l'Ouzbékistan, l'Iran ou le Pakistan, ils ont officiellement fermé leurs frontières. Donc aujourd'hui, comme le disait Hélène, les démarches qui doivent être faites pour arriver en France doivent être faites soit à Téhéran, New Delhi, ou maintenant on parle aussi d'Islamabad qui va réouvrir. Mais ces personnes-là ne peuvent pas traverser la frontière sans un laissez-passer ou un papier qui, du gouvernement français qui statue que ces personnes-là sont attendues dans ces ambassades. Donc, sans papier, sans communication officielle, sans liste donnée aux frontières, ces personnes-là ne peuvent pas passer sans risquer leur vie, sans demander à des passeurs de les faire passer. Donc, aujourd'hui, la situation est telle qu'il faut vraiment que le gouvernement puisse faire ce que font d'autres gouvernements européens, c'est-à-dire ouvrir une voie d'accès. Et nous, on parle aussi d'un corridor humanitaire, c'est-à-dire pour que l'aide puisse arriver pour tous ceux qui restent en Afghanistan, mais qu'on essaie de construire et d'ouvrir un couloir pour laisser sortir les personnes. Donc, les talibans, aujourd'hui, ont dit officiellement qu'ils laisseraient sortir des personnes qui ont des papiers. Malheureusement, la plupart des Afghans n'ont pas de passeport, certains n'ont même pas de carte d'identité. Donc, il faut vraiment, aujourd'hui, donner accès à ces laissés-passer. Et ça, c'est le rôle de la France qui peut donner ses laissez-passer aux Afghans pour qu'ils puissent quitter leur pays de manière à pouvoir ensuite rejoindre la France.
Justement, Hélène Soupios-David, est-ce que vous pensez que l'OFPRA, donc l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, peut intervenir et ouvrir des bureaux provisoires justement dans les capitales dont on a parlé, Téhéran, Islamabad, New Delhi, pour examiner les demandes d'asile ?
Alors, ça a été fait pour les Syriens, notamment en Jordanie, en Égypte. Il y a des missions qui peuvent être mises en place dans une procédure qui s'appelle la réinstallation, donc qui permet effectivement d'aller identifier les personnes en besoin de protection qui sont en dehors de la France et ensuite de les faire venir de manière légale. Et c'est, oui, c'est une des, ce qu'on appelle des voies légales, des manières sûres et légales pour que les personnes qui ont besoin d'être protégées puissent venir. Donc ça pourrait être une procédure en plus de la réunification familiale qui est un droit pour les personnes réfugiées.
Nassim Majidi, les vols commerciaux ont repris avec l'Afghanistan. Est-ce qu'ils sont réguliers ? Combien d'Afghans, parmi ceux qui souhaitent partir, peuvent embarquer ? Est-ce que c'est seulement ceux qui ont un laissez-passer délivré par une ambassade occidentale et qui n'avaient pas pu embarquer en août parce qu'il y avait des checkpoints et parce qu'il y avait une façon de filtrer de manière drastique au barrage ? Est-ce que c'est ceux-là uniquement qui peuvent partir ou est-ce que ceux-là ne peuvent même pas embarquer ?
Alors, les vols commerciaux n'ont pas repris. Donc, les programmes des compagnies sont aujourd'hui ouverts. Les vols sont ouverts que pour l'aide humanitaire donc, qui arrive. Et ça, par exemple, du Qatar. Et les vols commerciaux, c'est-à-dire les compagnies aériennes qui continuent de voler et d'atterrir à Kaboul et de décoller et aller vers des pays européens, ce sont des vols qui sont en gros des charters qui ont été organisés, payés, affrétés par soit des gouvernements, soit des compagnies privées ou des membres de la société civile. Donc aujourd'hui, c'est que des personnes sur des listes qui peuvent accéder à ces avions. Donc encore une fois, il y a toute une procédure de coordination qui doit reprendre. Et c'est pour ça que si la France aujourd'hui veut évacuer des personnes, elle le peut depuis l'Afghanistan, depuis l'aéroport de Kaboul ou de Mazar dans le nord ou par le Pakistan. Donc, c'est possible d'affréter des vols, mais il faut l'organiser et il faut pouvoir le négocier aussi avec les talibans.
Vous voulez dire qu'il y a des négociations secrètes avec les talibans pour permettre à ces avions privés de quitter Kaboul ou Mazar-i-Sharif ?
Bah sûrement, puisqu'aujourd'hui, il y a des vols jusqu'à hier. Il y avait plusieurs vols qui sont partis de Mazar vers d'autres destinations à l'étranger. Donc, les vols ont lieu. C'est juste que ces vols-là, aujourd'hui, n'arrivent pas vers la France. Elles vont en Allemagne, elles vont en Grèce, elles vont au Mexique. Donc, il y a un grand nombre de vols qui aujourd'hui et de gouvernements qui aujourd'hui réussissent encore à évacuer des Afghans. Donc, c'est vraiment autour de la France de jouer son rôle et de garder cet engagement également.
Oui, la Grèce a annoncé mercredi qu'elle avait accueilli temporairement, avant leur installation aux États-Unis, 6 députés afghanes et leurs familles qui ont fui l'Afghanistan après le retour au pouvoir des talibans. Et elles ont pu quitter le pays avec le soutien de l'ONG Zaka Khan, qui a son siège à New York. Donc, c'est les ONG aussi qui peuvent faciliter encore le départ, l'évacuation d'Afghans dont la vie est menacée.
Oui, les ONG et la société civile en général, mais beaucoup de journalistes se mobilisent aussi aujourd'hui pour les journalistes afghans qui, on sait, sont arrêtés, torturés, qui ont couvert les manifestations, par exemple les manifestations des femmes ces dernières semaines, qui courageusement s'opposent aux talibans, qui manifestent pour leurs droits, qui n'acceptent pas les conditions des talibans. Et donc les journalistes aussi sont en danger. Donc il y a vraiment des groupes qu'on sait, qu'on connaît, on a des listes de personnes en danger, il faut arriver à les faire sortir. Les ONG se mobilisent, mais beaucoup, beaucoup de personnes se mobilisent. Il y a un vrai engagement et un vrai soutien de ce point de vue-là. Maintenant, tout à l'heure, on parlait des solutions qui avaient été mises en place au moment de la crise syrienne. Donc, par exemple, de délocaliser des services de l'OFPRA dans les pays voisins. Ça, c'est possible aujourd'hui pour l'Afghanistan aussi. Mais il faut aussi se rappeler qu'il y a un statut qui s'appelle le statut prima facie, qui peut être accordé de manière collective pour en gros définir qu'un groupe, les Afghans aujourd'hui, ont besoin de la protection internationale. Il faut aussi faire appel à ces solutions juridiques pour que ces Afghans puissent être reconnus comme une population en danger qui a un besoin légitime de protection. Et il ne faut pas attendre pour que ces personnes sortent pour activer ce dispositif.
Vous parliez, Nassim, des journalistes afghans. 103 journalistes afghans ont lancé, par l'intermédiaire de Reporters sans frontières, un appel à la communauté internationale pour obtenir un soutien face à la répression des talibans. Tous ont voulu rester anonymes parce qu'ils sont menacés, hein, vous l'avez dit. Il y a une censure, il y a des intimidations, des arrestations et même la torture. Est-ce que vous avez des informations, Nassim, sur le sort des journalistes femmes en particulier?
Celles-ci, certaines arrivent encore à exercer leur métier. Donc, on entend souvent parler de la chaîne de télévision Tolo News, qui est en gros la compagnie média la plus importante du pays. Donc, certaines femmes journalistes sont encore à l'antenne. Mais si vous voulez, c'est plutôt c'est une exception plutôt qu'une règle. Donc, la plupart des femmes journalistes aujourd'hui ne peuvent pas faire leur travail librement, ou si elles le font, elles mettent leur vie réellement en danger. Mais comme on le voit avec ces centaines de femmes qui ont manifesté à Herat ou à Kaboul, aujourd'hui, on sent vraiment que les femmes se disent que c'est aujourd'hui ou jamais, que si elles attendent, elles ne seront plus audibles. Donc, elles veulent être visibles, elles veulent être audibles, elles veulent dire ce qu'elles pensent. Et il faut rappeler à tous vos auditeurs, encore une fois, que les Afghans ne veulent pas des talibans. Ils ne les ont pas choisis, ils ne les ont pas élus. C'est vraiment le gouvernement américain qui a amené les talibans aujourd'hui à la tête du gouvernement afghan. Et c'est même décideur, donc le gouvernement américain, qui aujourd'hui bloque les réserves de la Banque centrale d'Afghanistan. Donc il y a une crise aussi, non seulement politique, sociale, mais aussi une crise économique à laquelle font face les Afghans.
On a vu les manifestations de femmes hein, dont vous parlez à Kaboul, à Herat, mais est-ce qu'il y en a d'autres dans le pays? Est-ce qu'une certaine résistance s'organise parce qu'il y a des Afghans et des Afghanes qui refusent de prendre le chemin de l'exil?
Oui, bien sûr, il y a eu des manifestations à Kandahar, donc le fief des talibans dans le sud, où ces dernières 2 semaines, il y a eu des injonctions qui ont été faites par les talibans. Ils sont arrivés dans des maisons où les hommes étaient partis pour dire aux femmes qu'elles devaient sortir de ces maisons, que les maisons seraient reprises pour des combattants talibans. Les femmes sont sorties, elles ont manifesté en burqa dans les rues de Kandahar. Donc oui, aujourd'hui, les femmes manifestent, et elles manifestent aussi pourquoi ? Parce qu'encore une fois, les hommes sont partis. Et les hommes sont partis pour certains il y a plusieurs mois ou plusieurs années face à une crise économique, face à une situation sécuritaire qui se détériorait bien avant l'arrivée des talibans. Donc, il faut vraiment penser à ces femmes aujourd'hui qui se retrouvent bloquées chez elles, sans droit, sans protection, ni d'un gouvernement, ni de leur mari ou de leur famille. Donc, il faut vraiment penser à ces femmes-là qui aujourd'hui ne peuvent pas sortir. Maintenant, est-ce que certaines personnes veulent rester ? La vraie question, c'est est-ce que les Afghans peuvent partir ? Et aujourd'hui, malheureusement, ils sont piégés chez eux, ils ne peuvent pas partir, soit parce qu'ils ne peuvent pas se le permettre économiquement. Encore une fois, il n'y a plus d'argent en Afghanistan qui circule aujourd'hui. On ne peut plus payer les salaires. Les gens vendent tout ce qu'ils ont pour pouvoir s'acheter à manger. Il y a une inflation de 20%. Donc économiquement, ils ne peuvent pas sortir, mais aussi politiquement, l'accès, la sortie leur est interdite par tous les gouvernements de la région. Donc aujourd'hui, ils sont vraiment piégés chez eux.
Et quel est le sort des étudiantes et des élèves filles ? Les talibans ont autorisé les étudiantes des universités privées à reprendre les cours, mais sous condition ?
Oui, alors pour les universités, la condition est que les hommes et les femmes doivent être séparés. Également, les personnes qui vont pouvoir enseigner doivent être principalement des hommes et plus âgés. Il y a eu aujourd'hui ou hier 70 professeurs de l'université de Kaboul qui ont donné leur démission parce que les talibans ont mis à la tête de l'université, ils ont remplacé quelqu'un qui était très respecté, un professeur qui était à la tête de l'université a été remplacé par un taliban qui n'a pas de cursus vraiment avéré. Et donc 70% de professeurs ont donné leur démission parce qu'ils savent très bien que la qualité de l'éducation va chuter. Et malheureusement aussi, il y a depuis vendredi dernier, des annonces ont été faites que les écoles réouvriraient pour les garçons et pour les enseignants hommes. Aucune annonce pour les femmes et les filles. Et donc, ce constat, c'est de facto, ça veut dire que les filles n'auront plus le droit d'aller à l'école. Mais justement, ils ne le disent pas clairement, mais en 96 non plus, ils ne le disaient pas clairement, mais ils le faisaient dans les actions.
Donc, ça veut dire que les filles pourront aller à l'école jusqu'en primaire, mais ensuite, le collège et le lycée leur seront fermés.
Oui, donc à partir de 11 ans, toute fille qui habite en Afghanistan, à partir de 11 ans, ne pourra plus aller à l'école, tout simplement.
Et le sport pour les filles, même chose, ce sera aussi, c'est aussi interdit ou bien il y a encore, la question reste floue.
Donc pour les filles, il faut aussi rappeler qu'aucun autre pays dans le monde n'interdit l'accès à l'éducation. Donc c'est vraiment, ça devrait être une de ces lignes rouges pour tous les pays dans le monde et pour les Nations Unies. C'est-à-dire, on ne peut pas reconnaître un gouvernement s'il a de telles pratiques. Sur le sport, pareil. Donc entre 1996 et 2001, déjà on le savait, toute forme de récréation ou toute forme de sport était interdite aux femmes. Et aujourd'hui, c'est les mêmes pratiques. Et encore une fois, pourquoi ? Parce que les personnes qui dirigent le pays aujourd'hui sont les mêmes personnes qui sont les fondateurs du mouvement taliban, du réseau Haqqani. Donc, c'est les mêmes personnes qui reviennent 25 ans après.
Je reviens au sort des Afghans qui ont pu être évacués de leur pays et qui sont arrivés donc en France. Hélène, est-ce qu'ils peuvent suivre des cours de français ? Est-ce qu'ils ont droit à des formations ? Est-ce qu'ils peuvent trouver du travail, même s'ils n'ont pas encore le statut, donc le droit d'asile ? Comment ça se passe pour eux ? Comment ça va se passer pendant ces mois d'attente ?
Alors, comme tous les demandeurs d'asile, malheureusement, l'État ne finance pas de cours de français. Donc, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Ça veut juste dire qu'ils sont faits par des bénévoles, par des associations qui trouvent des financements propres pour le faire. Parce qu'on considère, nous, à France Terre d'Asile, la majorité des associations, que l'apprentissage du français doit se faire le plus tôt possible. Et c'est un point clé pour ensuite pouvoir s'intégrer et justement trouver un emploi. L'État français considère, lui, qu'il faut attendre de savoir que les personnes sont bien réfugiées et qu'elles ont le droit de rester en France pour démarrer ce processus d'intégration. Et ensuite, en quelques mois, ils sont censés trouver un emploi, trouver un logement, sans forcément parler la langue. Une fois qu'ils ont... Donc pendant la demande d'asile, les demandeurs d'asile n'ont pas le droit de travailler. Ils ne peuvent pas suivre de formation professionnelle. Ils peuvent étudier, par contre. Et c'est seulement une fois qu'ils ont un titre de séjour qu'ils peuvent entrer dans une démarche, par exemple, de formation professionnalisante et ensuite chercher un emploi.
Reza Jafari, est-ce que la communauté afghane en France joue un rôle important pour ces nouveaux arrivants ? Est-ce qu'elle a des actions concrètes ? On parlait des cours de français. Est-ce que vous aidez, par exemple, à organiser des cours de français pour ces réfugiés qui ne parlent pas forcément notre langue ?
Oui, bien sûr, il y a une solidarité qui s'est créée autour de ces réfugiés afghans, pas seulement par les Afghans, mais aussi par les Français. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, on reçoit des mails comme quoi il y a beaucoup de familles qui sont prêtes à héberger et aussi parfois même organiser des cours de français et aider autrement. Ces derniers jours, on a un entrepôt où on fait des maraudes de nuit, parce qu'il faut rappeler que les autres Afghans qui arrivent par d'autres moyens, clandestinement, ils ne sont pas traités de la même façon, ils ne sont pas accueillis de la même façon, ils sont accueillis dans la rue. Et comme l'a dit tout à l'heure, ça prend plusieurs mois pour avoir un rendez-vous pour déposer la demande d'asile, mais ensuite, même après avoir déposé sa demande d'asile, il doit encore attendre un certain moment pour avoir un hébergement. Et On le faisait, ça fait depuis des années qu'on fait des actions de visibilisation sur la situation des réfugiés, notamment des réfugiés afghans ou d'autres des réfugiés qui vivent des pays en guerre. Mais malheureusement, aujourd'hui, je pense que parce qu'il y a beaucoup de caméras sur ces Afghans, il y a aussi les médias, c'est pour ça qu'on les privilégie. Mais sinon, c'est les mêmes personnes, c'est les mêmes Afghans qui fuient les mêmes personnes, c'est-à-dire les talibans. Mais aujourd'hui, il y a une vraie solidarité qui s'est créée, notamment suite aux images qu'on a vues, les Afghans que le désespoir les avait rendus un petit peu... Mais le désespoir en fout les gens et qu'ils étaient accrochés à des avions. Et on a très bien compris que ces Afghans ne partent pas par plaisir, mais parce qu'ils connaissent les talibans, parce qu'ils savent ce qui les attend.
Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été nos invités. Hélène Soupios-David, directrice plaidoyer au sein de France Terre d'Asile. Reza Jafari, président de l'association Enfants d'Afghanistan et d'ailleurs. Et Nassim Majidi, co-directrice du Centre de recherche sur les migrations Samuel Hall, basé à Paris, Nairobi et Kaboul. On va se quitter en musique avec Renaud et Axel Red, Manhattan Kaboul.
Portoricain, bien intégré quasiment new-yorkais, dans mon bulletin tout de verre et d'acier, je prends mon job, un rail de coke, un café.
Petite fille afghane, de l'autre côté de la terre, jamais entendu parler.
Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant pulvérisés sur l'autel, la violence éternelle. À 747, c'est explosé dans mes fenêtres.
Mon ciel si bleu est devenu orage lorsque les ponts m'ont rasé mon village. Deux étrangers.
Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant pulvérisés sur l'autel, la violence éternelle. Solo gagne mon rêve américain.
Moi, plus jamais esclave des chiens.
Il t'imposait l'islam des tyrans.
Cela n'était jamais ni le Coran.
Je serai pas maître de l'univers. Ce pays que j'aimais tellement serait-il finalement colosse au pied d'argile.
Les dieux, les religions, les guerres de civilisation,
les armes, les drapeaux, les patries, les nations.
La chair à canon, deux étrangers au bout du monde, si différents.
7 milliards de voisins touchent à sa fin. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer l'émission. Juliette Bro, Delphine de Dianous, Sigrid Azeroual et à la réalisation Romain Dubrac. Lundi, c'est Amélie Beaucourt que vous retrouverez à ce micro pour parler d'un phénomène qui a encore pris de l'ampleur depuis la crise sanitaire, le développement personnel. Les tutos se multiplient sur Internet et les rayons des librairies croulent sous les livres consacrés au sujet. Êtes-vous pour ou contre? On vous attend sur WhatsApp au 33 7 64 45 51 41. À bientôt et bon week-end à tous.
7 milliards de voisins, c'est fini. C'est ça.